Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Pour le commun des usagers que nous sommes, on change de sigle sans se préoccuper outre mesure de leur signification. Accrochés à nos smartphones et à nos tablettes, nous avons donc connu la 3G, la 4G et voilà qu'on nous annonce la 5G. En France, l'agence chargée de la sécurité des systèmes d'information doit dans les 2 mois donner le feu vert aux opérateurs télécoms et préciser les équipements qui seront autorisés. Il y va de la transmission des données en quantité de plus en plus considérable, de la rapidité des connexions, mais aussi de leur sûreté. Et la même question embarrasse la plupart des Européens. Faut-il ouvrir complètement le marché au chinois Huawei, le numéro 1 mondial du secteur, quelle que soit sa proximité avec le pouvoir à Pékin et les tensions croissantes entre les deux empires qui se disputent désormais la suprématie technologique, les États-Unis et la Chine. De la 5G à l'intelligence artificielle, dont les avancées transforment le siècle, le lien est direct et les enjeux stratégiques. Huawei mène en Europe une offensive de charme tous azimuts. Washington interdit désormais aux firmes américaines de travailler avec les sociétés chinoises et veut convaincre ses alliés de faire de même. Par ricochet, Pékin entend exclure de son administration, en tout cas, tous les logiciels et composants électroniques de fabrication américaine. Le découplage technologique est-il devenu inéluctable ? 30 ans après la naissance d'Internet et l'utopie d'un monde complètement ouvert, est-on entré dans une nouvelle guerre froide ? Technologie chinoise ou protection américaine, les Européens vont-ils devoir choisir leur camp ? Peuvent-ils, à leur tour, rattraper leur retard et jouer leur propre carte ? C'est ce que nous allons explorer ce matin, grâce à vous, Dominique Boulier, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez la sociologie à Sciences Po à Paris. Alice Ekman, ravie de vous accueillir à nouveau. Vous êtes responsable de l'Asie à l'Institut, je vais essayer de parler français, à l'Institut de l'Union européenne pour les études de sécurité, donc l'EUISS, Alain Siby, professeur à Télécom Paris, secrétaire général d'Urci France, qui est une société savante sous l'égide de l'Académie des sciences. Et puis, last but not least, Julien Nocetti, qui est enseignant-chercheur aux écoles de Saint-Cyr, Coëtquidan, chercheur associé à l'IFRI. Monsieur Siby, je commence avec vous. Qu'est-ce que donc la 5G ?
C'est une nouvelle génération donc pour les réseaux mobiles. Je pense que pendant quelque temps, d'ailleurs, les acteurs essentiels, équipementiers, opérateurs n'étaient pas tout à fait sûrs qu'il fallait continuer sur le rythme de ces générations, mais c'est ce qui a été fait. On a environ une génération tous les un peu moins de 10 ans, on va dire, et à chaque nouvelle génération, effectivement, c'est une nouvelle aventure technologique, industrielle, économique, avec de nouvelles possibilités qui sont offertes. Donc la 5G, c'est un petit peu ça. On va dire que par rapport aux générations précédentes qui étaient vraiment tournées vers les individus, hein, entreprises ou personnes, eh bien, cette nouvelle génération, elle va faire parler beaucoup plus les machines et donc ça engendre toute une série de développements technologiques, d'usages, bien évidemment, avec les problématiques associées.
Les problématiques associées, c'est-à-dire au-delà de la rapidité, donc de la diversité de ces usages, est-ce que cela concerne les consommateurs que nous sommes ou ça concerne d'abord le monde de l'entreprise, le business ?
Ça concerne tout le monde. Bien sûr, les utilisateurs que nous sommes, on a en général été très contents de passer à la 3G, à la 4G, parce que on avait un accès à Internet très facilité. Le smartphone a évidemment été un grand catalyseur. Ça va continuer à se faire avec la 5G, dans la mesure où on a fondamentalement des capacités plus élevées, on a des nouvelles bandes de fréquences qui s'ouvrent, on aura une rapidité plus importante, on aura probablement des couvertures plus fines, et tout ça, c'est sûr que ça va servir à l'utilisateur. Voilà. Mais disons, la vraie nouveauté, c'est vraiment d'aller vers l'industrie, vers éventuellement le monde de la santé, donc tout ce qu'on appelle les verticaux, la voiture connectée, toutes ces choses-là. Et c'est là-dessus qu'il y aura probablement l'innovation la plus importante. Après, il y a une question importante, c'est à quelle échéance, comment ça va se faire, et ça, j'imagine, ça va faire partie des points à discuter.
Et avec des investissements tout à fait considérables.
Absolument, bien évidemment, parce que pour plusieurs raisons, en particulier le fait qu'on va probablement rapprocher les équipements d'accès, bon, ce qu'on appelle les stations de base ou les points d'accès de l'utilisateur, et donc ça veut dire bah il faut développer tous ces équipements-là, faut les connecter entre eux. Alors il y a plein de solutions qui limitent un peu le coût, mais c'est vrai que cette question d'investissement est un peu au cœur des problématiques des opérateurs et puis les équipementiers qui vont derrière, bien sûr.
Et les opérateurs qui en France en tout cas sont impatients que l'agence qui dépend de Matignon annonce la couleur. Ça veut dire aussi, et ça c'est important à la fois pour le paysage urbain et pour les utilisateurs que nous sommes, une multiplication des antennes avec, si j'ai bien compris dans cette technologie-là, ce qu'on appelle des stations de base. C'est-à-dire que chaque antenne aura une espèce de dispositif propre miniaturisé.
Bah, disons que des stations de base, ça existe depuis le tout début de, disons, du système de radio cellulaire, donc le GSM. Ce qui va se faire, c'est qu'on va de plus en plus vers des systèmes un peu hiérarchiques, avec des cellules de grande taille, bon, typiquement dans les campagnes, par exemple, mais aussi dans une certaine mesure dans les villes, vers des cellules de plus en plus petite taille. Donc, il y a un système un petit peu hiérarchique. Et donc, les plus petites cellules, elles sont assez proches d'utilisateurs. Donc, effectivement, il faut pouvoir les développer. Alors, ce qui nous aide, très brièvement dans ça, c'est une nouvelle modalité, alors qui est vraiment une innovation technologique, qui permet par exemple de concentrer des faisceaux, et donc pour une station de base donnée d'aller un peu plus loin, tout en conservant un signal important, un débit important. Donc c'est, disons que ça, on a une certaine complexité et richesse technologique qui va aussi nous aider.
Oui, j'ai lu quelque part que l'Église catholique québécoise se refait une santé financière parce que c'est désormais dans les clochers que les antennes sont installées. Dominique Boulier, cette multiplication des usages, donc on comprend que cela concerne d'abord le B2B, les usages industriels, donc au niveau de d'entités importantes. Jusqu'à quel point est-ce que cette accélération technologique nous concerne tous ?
Bien, dans la mesure où cela facilite l'utilisation de certains objets, notamment, on va parler de l'Internet des objets et de la connectivité que cela permet, et donc leur réactivité plus importante, puisqu'on aura des temps de latence, comme on dit, donc de réactivité des différentes machines entre elles plus importantes. Donc on imagine qu'il y a des applications nouvelles qui sont potentiellement présentées comme absolument gagnantes, si vous voulez, à tous les coups. Donc c'est le cas quand on parle du véhicule autonome, par exemple. Mais donc on voit que c'est du B2B, certes, mais en même temps, c'est des choses qui vont impacter le reste de la vie ordinaire de tout un chacun. Le problème étant que quand on annonce cela, si vous voulez, on oublie souvent que c'est beaucoup plus compliqué de développer l'ensemble du système organisationnel qui va avec, la compatibilité avec l'ensemble du trafic, les systèmes légaux qui vont autoriser les problèmes de responsabilité, etc., que d'avoir des technologies performantes. Donc il ne faudrait pas immédiatement annoncer que parce qu'on a cette technologie sous la main, on va pouvoir résoudre des problèmes qui sont compliqués du point de vue des systèmes urbains, par exemple, et de l'ensemble des objets qu'on va pouvoir connecter. Donc il faut aussi se donner le temps d'anticiper la façon dont on va réorganiser les responsabilités de tout ça, et notamment les questions de sécurité. Parce que quand on parle d'Internet des objets, eh bien, on est immédiatement confronté au fait que le réseau que nous exploitons actuellement n'est pas du tout fiable, hein, en réalité, et qu'on peut donc générer, démultiplier certes les applications potentielles, mais en même temps, du coup, démultiplier aussi les risques de ce point de vue.
Mais si le réseau tel qu'il existe n'est pas fiable, ça veut dire aussi qu'il est sinon en bout de course, mais enfin qu'en tout cas il a épuisé son potentiel.
C'est surtout qu'il a des défauts de conception d'origine, si vous voulez, qui faisait sa flexibilité, sa rapidité, etc. Et qu'on a insisté beaucoup sur la vitesse, donc pour optimiser tout cela, ce qui est le cas encore d'ailleurs avec cette technologie, la 5G va optimiser tout cela, alors qu'on a sous-estimé les investissements en termes de sécurité, c'est-à-dire de contrôle aussi sur à la fois la qualité, les types d'accès, etc. Et qui, du coup, serait supposé ralentir un peu tous ces procédés-là. Mais en réalité, c'est que ce sont des choses qui, désormais, on le voit tous les jours avec tout ce qu'on appelle les data breaches, c'est-à-dire toutes les données qui sont captées illégalement, en l'occurrence, là, mais qui sont effectivement, qui peuvent devenir dangereuses. Donc c'est surtout qu'on a surinvesti, si vous voulez, dans la vitesse. Le réseau, il a été conçu pour optimiser tout le temps la vitesse. Or, il devient largement temps de prendre en compte les questions de sécurité. Alors là, quelquefois, ça peut être des solutions locales, mais en réalité, c'est y compris du cryptage généralisé, mais c'est des choses qui doivent aussi supposer une refonte des architectures plus globales, que ce que certains, comme Berners-Lee, par exemple, le fondateur du web, poussent, pour lesquels, sur lesquels ils poussent.
Oui, lequel a dit son désespoir, en fait, de voir l'utopie d'Internet souillée, à son avis, parce qu'il utilise un vocabulaire quasi mystique, souillée par les besoins des utilisateurs. Mais ce besoin de rapidité, on l'éprouve tous, c'est-à-dire qu'on devient follement impatient quand on n'arrive pas à télécharger ce qu'on veut voir ou ce qu'on veut lire suffisamment vite.
Oui, vous avez complètement raison. Il y a une forme d'incorporation, disons, de couplage très étroit avec ces techniques, avec les contenus qu'on télécharge, avec tout cela, et une forme même d'encouragement de cette demande de vitesse, que ce soit dans un moteur de recherche, dans une série télé qu'on télécharge, ou dans du jeu vidéo, par exemple. Tout ça, on prend cela comme donnée, comme acquis. En réalité, améliorer la sécurité du réseau ne générerait pas forcément des temps si importants que ça, en termes de délai. Mais évidemment, c'est quand même quelque chose qui n'est pas dans les priorités d'investissement de ces grandes compagnies qui font en réalité les choix politiques de ces architectures internationales. Ce ne sont pas les États qui les décident, ce sont bien ces groupes qui poussent pour de la technologie une nouvelle génération, puisque la 4G est en bout de course, et donc pour renouveler les terminaux, et bien évidemment, quoi de mieux que de ce type de technologie ? Ce qui n'est pas, condamnable, c'est pas le problème. Mais c'est surtout qu'on peut se donner les moyens, à cette occasion-là, de revoir un peu l'architecture générale du réseau. Et en l'occurrence, on a l'impression d'être tellement dans l'urgence qu'on n'est pas sûr que ce soit fait.
Julien Nocetti, cette question de la sécurité, l'accélération technologique, l'entrée dans ce nouveau cycle de la 5G, les enjeux de sécurité sont encore plus aigus.
Ils sont encore plus aigus, effectivement, et comme Dominique Boulier le soulignait, on est dans un contexte où il faut repenser le sujet dans sa globalité. Donc il est question de 5G dans notre émission aujourd'hui, mais c'est tout le réseau Internet tel qu'on le connaît, évidemment aujourd'hui, qui doit être aussi refaçonné et qui doit prendre en compte toutes les nouvelles vulnérabilités qui vont s'exprimer par le biais de l'automatisation, avec des systèmes d'intelligence artificielle qui là aussi vont se multiplier et qui vont constituer en quelque sorte l'oxygène de tous les réseaux 5G que nous connaîtrons à l'avenir. Donc c'est à la fois une extrême complexité de cet univers technologique qui va se renforcer, une interdépendance également, évidemment, on en reparlera très certainement, et une quasi-ubiquité au fond, puisque tous ces systèmes communiqueront entre eux, vont renforcer encore une fois ces vulnérabilités. Et on est déjà aujourd'hui, début 2020, dans un contexte où les cyberattaques se multiplient, où elles sont parfois extrêmement difficiles à attribuer à des États, à des acteurs non étatiques, à des groupes de hackers, à des acteurs privés. Donc, si vous voulez, avec cette question de 5G et d'intelligence artificielle, ce qui va se produire dans les années à venir, dans les 5 à 10 ans à venir, ça va être essentiellement, je pense, un renforcement de ces de ces logiques sécuritaires et un accroissement des vulnérabilités. Donc ça va demander évidemment beaucoup d'investissements de la part des États en premier lieu, de la part des grands acteurs économiques. Et là, dans le cas de la 5G, on en a parlé tout à l'heure, ce qui sera permis, ce sera non pas seulement de connecter les réseaux téléphoniques, mais vraiment toutes les infrastructures d'un pays, les usines, les ports, les hôpitaux, les autoroutes, etc. Donc, en matière de fuite de données, de piratage, d'actions de sabotage, ça laisse évidemment beaucoup de possibilités à des acteurs hostiles.
Au niveau européen, il y a au moins 2 rapports qui ont été rendus publics. Un rapport en juin de l'année dernière de Kerkhov, qui est, je crois, le coordinateur européen antiterroriste, qui pointait la difficulté de plus en plus grande avec la 5G de mener toutes sortes d'enquêtes policières, entre autres, pour arriver à localiser un certain nombre d'acteurs. Et puis, un rapport plus récent, en octobre dernier, rendu public par le commissaire européen en charge à l'époque, pointant là aussi le risque accru d'attaques informatiques. Et il faut bien dire, même si l'opérateur le premier opérateur mondial n'était pas nommé. Il s'agissait bien de Huawei, qui est donc chinois et qui est le premier mondial aujourd'hui.
Bien sûr. Et ce qui est intéressant, notamment dans le second rapport que vous mentionnez, donc qui a été rendu public par la commission à l'automne, en octobre, donc c'est un rapport qui portait essentiellement sur l'évaluation des risques liés au déploiement de la 5G dans les pays de l'Union européenne. Et là, ce qui est ressorti de ce rapport, c'est une position encore une fois assez attentiste, assez prudente de la part de l'Union européenne, de Bruxelles. Mais en même temps, il y a eu aussi une façon de nommer la Chine sans la nommer précisément. Avec Huawei qui ressort assez clairement en filigrane des conclusions du rapport dans certaines des conclusions du rapport, il s'agissait de pointer les risques liés à un pays tiers non démocratique. Donc on voit bien qu'il s'agissait aussi de pointer assez directement, assez clairement les menaces potentielles qu'on attribue à la Chine et en particulier à son champion Huawei.
Oui, mais cette timidité est d'autant plus saugrenue que l'on voit à quel point l'administration Trump, à commencer par le président américain lui-même, n'hésite pas à montrer du doigt Huawei, à le nommer sans arrêt. Il l'a fait encore, me semble-t-il, en marge de la dernière réunion de l'OTAN à Londres. Et depuis le mois de mai de l'année dernière, les firmes américaines n'ont plus le droit de travailler avec des sociétés chinoises et Huawei est nommément désigné.
Huawei est nommément désigné. Il y a évidemment un dossier Huawei qui a été approprié, je dirais, par Trump de façon très émotionnelle, comme il le fait pour la plupart des grands sujets de politique étrangère et de sécurité aujourd'hui, on le sait tous. Je pense qu'en fait, ces actions de Trump traduisent aux États-Unis surtout une très très forte anxiété. À la fois sur le plan sécuritaire, évidemment, même si c'est un aspect qui peut être parfois instrumentalisé, parce que les Américains mettent évidemment en avant des risques de sabotage ou d'attaque informatique par le biais de ces réseaux 5G maîtrisés, possédés par la Chine, par ces équipementiers chinois, mais aussi ça traduit une crainte de perdre un leadership technologique qui, jusqu'à présent, sur le plan numérique et sur le plan des grandes technologies de l'information et communication, appartenait aux Américains. Donc là, c'est quelque chose qui est extrêmement palpable, à la fois sur la côte Est, à Washington, et dans les grands pôles universitaires, au MIT à Boston, à Harvard, mais aussi sur la côte Ouest, en Californie, où cette présence chinoise aussi se retrouve dans à Stanford ou dans des grands laboratoires de recherche dans la Silicon Valley où vous avez des étudiants chinois présents en masse. Donc il y a aussi une connaissance très 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 étroite entre ces deux pays en matière technologique. Donc ce qui ressort, c'est cette crainte vraiment très importante de la part de Washington de céder la main lentement mais sûrement à la Chine en matière technologique, et ce dossier de la 5G est très emblématique de la partie qui se joue. Ça se traduit aussi dans d'autres champs technologiques, notamment dans l'intelligence artificielle, dans l'informatique quantique, où là il y a une bataille rhétorique entre Pékin et Washington pour qui aura la plus grande puissance de calcul et arrivera à démontrer qui a le lead à l'échelle globale. Mais cette question, cet enjeu de la 5G est peut-être le plus prégnant, si vous voulez, dans cette rivalité aujourd'hui technologique sino-américaine.
Alice Ekman, ça fait évidemment partie des domaines sur lesquels vous travaillez, spécialiste de l'Asie, spécialiste de la Chine. Il faut dire que l'accélération technologique de la Chine depuis que le président Xi Jinping en 2015 a annoncé son plan « Made in China », d'ici 2025, c'est vrai que le grand bond en avant est absolument spectaculaire.
Oui, maintenant la Chine a des champions nationaux qui sont capables de devenir des puissances normatives. C'est-à-dire que maintenant, la Chine est leader dans le domaine de la 5G. Et par ses innovations, par les services qu'elle met sur le marché, elle façonne les normes dans ce secteur. Et ça aussi, ça fait peur à un nombre croissant de pays. Et ça pose la question de l'autonomie stratégique, c'est-à-dire compte tenu du caractère stratégique de certaines infrastructures, les réseaux de télécommunications, est-ce qu'il faut accorder les marchés de ces infrastructures, la gestion de ces infrastructures à des puissances étrangères? Ça, c'est la grande question qui est posée aujourd'hui. Mais toute cette question-là émerge dans un contexte de tension renforcée entre la Chine et les États-Unis, qui, de mon point de vue, n'est pas contexte de tension commerciale, mais de plus en plus tension technologique, parce que le cas de Huawei n'est qu'un exemple aujourd'hui parmi d'autres. Huawei est le cas le plus connu, mais l'administration Trump a listé près de 200 entreprises chinoises du secteur des technologies qui sont considérées d'un point de vue de Washington comme posant des problèmes de sécurité. Ce qui veut dire concrètement qu'aujourd'hui, un nombre croissant d'entreprises américaines et chinoises ne peuvent plus travailler ensemble et qu'à terme, alors côté chinois, face à cette situation-là, oui, certaines entreprises accusent le coup. Huawei a perdu, en tout cas perd des opportunités de marché ou certaines parts de marché, même si la santé de l'entreprise est globalement bonne. Mais ils réfléchissent au coût d'après, c'est-à-dire investir en recherche et développement pour pouvoir être moins dépendant des composants et technologies américaines, mais aussi européennes, globalement moins dépendant des technologies étrangères, des composants, parce que la Chine reste dépendant. Par exemple, les caméras de vidéosurveillance, la Chine est leader, mais elle est encore dépendante de certaines technologies européennes.
Et Dieu sait si elle en fait usage.
Voilà. Mais par exemple, là, cette liste donc diffusée par l'administration Trump, donc liste Huawei, mais elle aussi inclut des entreprises de reconnaissance faciale comme McVie ou des entreprises de vidéosurveillance comme Ikvision ou Dahua. C'est-à-dire que aujourd'hui, donc pour la Chine, la question est de réorganiser sa chaîne d'approvisionnement pour pouvoir trouver des composants ailleurs. Donc déjà, ça prend du temps et à court terme, ça pose des problèmes économiques et stratégiques des deux côtés. Mais à long terme, on pourrait vraiment voir émerger ce découplage technologique, c'est-à-dire que finalement, l'un et l'autre aient de moins en moins besoin de cette interdépendance économique technologique qu'on notait jusqu'à présent, et que deux types de normes émergent, deux types de réseaux de télécommunications émergent, et finalement, deux pôles de pays avec chacun leurs propres normes, leurs propres technologies et leurs propres. Bien sûr, c'est de la géopolitique, c'est de la prospective aujourd'hui, mais ça me paraît.
Tous les samedis matins.
Oui, mais ça me paraît une hypothèse de plus en plus probable, en fait. Lorsqu'on analyse en détail les déclarations chinoises, même lorsqu'on analyse aussi les déclarations du fondateur et PDG de Huawei, on se dit bah très bien, vous voulez pas de nos technologies, ben nous, on va s'organiser, on investit en R&D pour pouvoir faire sans vous, et à terme, on fera au maximum. Et la Chine, déjà avant cette guerre commerciale technologique, chercher à être puissance normative par le plan que vous avez mentionné, par exemple,
et avec un atout immense qui est son marché intérieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quoi, 802 millions d'internautes en Chine, ça veut dire qu'il y a déjà une base de données considérable, plus évidemment une politique d'investissement au niveau de l'État qui s'accélère. On voit d'ailleurs que le régime chinois commence à s'inquiéter de la puissance de ses propres géants que sont Alibaba, Tencent, etc., en disant, bon, on n'est pas tout à fait dans les problématiques américaines où là, véritablement, les GAFA ont une puissance que même M. Trump n'a pas. Néanmoins, et c'est aussi le paradoxe de la politique de Trump, c'est qu'au fond, il accélère avec ses sanctions et l'embargo sur les technologies américaines, il accélère le développement chinois.
Oui, et on le verra dans 5 ou 10 ans, mais c'est une...
Dans 5 ou 10 ans, ça va tellement plus vite en Chine.
Oui, en tout cas, on a sous-estimé depuis très longtemps les capacités d'innovation chinoise. On disait souvent que la Chine n'est pas capable d'innover compte tenu d'un système politique. Aujourd'hui, on voit qu'elle est leader dans certains secteurs, et la 5G en est un, mais parmi d'autres, puisque le gouvernement chinois a très largement investi dans le big data, les données agrégées, la vidéosurveillance, mais aussi les smart cities, qui est finalement une agrégation de plein de technologies et de services. Et la 5G permet aussi d'accélérer cette transmission des informations qui est utile aux villes. Mais dans le contexte géopolitique actuel, ce qui est intéressant de noter, c'est que je pense aussi que les États-Unis ont sous-estimé le rapprochement Chine-Russie dans le domaine des technologies. C'est-à-dire que ils ont pensé qu'en listant ces entreprises et en freinant finalement leur développement sur certains marchés, elles freineraient globalement le développement international des entreprises. Mais la réalité est que Huawei, par exemple, a signé un contrat avec le russe MTS, et puis une coopération semble se renforcer entre Pékin et Moscou sur les nouvelles technologies dans le contexte de tensions renforcées. Donc on voit à la fois un découplage technologique émerger entre Pékin et Washington, mais aussi un rapprochement technologique. Là, c'est la probabilité société, mais qui me semble de plus en plus observée entre Pékin et Moscou. Et donc, ça pose un certain nombre de questions, à la fois en termes d'infrastructure, mais aussi en termes d'utilisation, parce que la Chine et la Russie aussi ont des conceptions d'Internet qui sont assez différentes de celles de Washington ou de la majorité des pays européens.
Mais avec en commun une conception très autoritaire.
Oui, c'est immense. La Chine souligne dans
très autoritaire du régime.
Oui, la Chine souligne dans son livre blanc sur le cyberespace l'importance d'avoir un Internet souverain. C'est-à-dire que ce n'est pas un Internet ouvert. C'est-à-dire que l'État est la puissance qui peut superviser cet espace qui n'est pas international, qui est avant tout souverain. Donc, on pourrait encore une fois voir émerger deux types d'Internet, deux types de réseaux mobiles, deux types de normes et de standards dans ces domaines.
Julien Nocetti, on n'en est pas encore là, mais expliquez-nous comment et pourquoi Huawei, qui est donc maintenant le premier fabricant mondial depuis 2017, a acquis en Europe en particulier des parts de marché considérables. Je crois 40% des parts de marché, et c'est le premier équipementier en ce qui concerne la 5G.
Alors effectivement, on a aussi peut-être eu tendance à négliger le fait que l'Europe est l'un, sinon le théâtre principal de cette rivalité technologique sino-américaine. Et là, Huawei, vous le rappeliez, a des parts de marché tout à fait enviables sur le continent, parce que c'est en Europe que Huawei a tiré l'essentiel de sa croissance en 2018 en particulier. L'Europe, c'est son plus grand marché au monde depuis 2013, je crois, derrière évidemment la Chine continentale. Et ça, si vous voulez, c'est très important d'un point de vue symbolique, parce que ce succès entre guillemets européen pour Huawei et pour la Chine, c'est censé traduire les premiers pas d'une approche technologique plus qualitative que quantitative. Jusqu'à très récemment, il y a eu une démarche chinoise qui était traditionnellement assez quantitative avec toute cette approche d'usine du monde, etc. Aujourd'hui, il y a une approche beaucoup plus qualitative, et ça, c'est symbolisé par ces succès de Huawei en particulier, notamment dans le secteur des smartphones, où Huawei peut damer le pion à ses concurrents les plus avancés, notamment Apple ou Samsung. Donc, si vous voulez, l'Europe est ici perçue de manière très très sérieuse, très stratégique par ces acteurs chinois, Huawei en premier lieu. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait notable dans cette bataille technologique.
Et Huawei est donc présent sur toute la ligne, c'est-à-dire depuis les équipements jusqu'au smartphone, mais à partir du moment où il ne pourrait plus se servir des systèmes d'exploitation Google, donc d'Android, qu'est-ce qui se passe pour eux ?
Mais ils seront principalement contraints, et c'est ce qui semble se produire, de développer leur propre OS mobile. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été entamé avant les sanctions américaines, mais qui s'est évidemment accéléré depuis les décrets adoptés par Trump au mois de mai dernier. Donc ce qui se dessine, et ce qui est très cohérent avec ce que Alice détaillait dans le plan Made in China 2025, c'est de renforcer la souveraineté technologique chinoise, sa propre autonomisation en matière numérique. Alors ça concerne évidemment le secteur des smartphones et des équipements réseau, mais aussi la biomédecine, le spatial, les batteries électriques, etc. Donc ça, c'est très cohérent avec une politique générale peut-être plus large et extrêmement ambitieuse d'ailleurs. Ce qu'il ne faut pas non plus occulter le fait que certains des grands plans quinquennaux, je dirais, adopté par la Chine ces dernières années, notamment dans l'automobile, dans les semi-conducteurs, ont tous été des échecs. C'est-à-dire que le niveau d'ambition qui avait été affiché au départ ne s'est pas traduit in fine par une hégémonie mondiale. Donc c'est peut-être là où il faut peut-être garder la tête froide et relativiser aussi ce discours d'une Chine qui va nous dévorer tout cru à l'horizon 5 ans. Il y a certes évidemment des vérités politiques très affirmées, avec une approche géopolitique aussi qui tranche peut-être avec une lecture européenne plus hésitante et plus au fond plus juridique et technique que géopolitique. mais il n'empêche que on a peut-être aussi tendance de ce côté-ci, de l'Atlantique, à voir avoir cette Chine technologique de manière très très uniforme et très centralisée, alors qu'il y a aussi des jeux d'appareils en interne en Chine qui peuvent être très dissonants ou en désaccord sur les décisions à prendre précisément en matière technologique.
Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'accélération technologique va installer la 5G prochainement, même en France, encore une fois, dans les 2 mois qui viennent, on devrait savoir quels équipementiers seront ou non autorisés. Il semble qu'il y ait une certaine frilosité côté français à nommer, en particulier Huawei. Hamdam Mostafavi, bonjour, vous êtes rédactrice en chef à Courrier International. Racontez-nous l'extraordinaire épopée, il faut bien le dire, de Huawei et de son président fondateur.
Oui, d'abord le père, Zheng Zhengfei, aujourd'hui âgé de 75 ans, qui a fondé Huawei en 1987 avec seulement 21 millions, soit l'équivalent de 3 000 $ de l'époque, nous raconte le Straits Times, le quotidien de Singapour, qui lui consacre un portrait. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 1,5 milliard de dollars, alors que c'est l'aîné d'une famille modeste, une famille de 7 enfants. Ses parents sont instituteurs et il passe son enfance dans une région montagneuse du sud de la Chine. Il étudie l'ingénierie et devient technicien dans l'armée populaire de Chine, avant de retourner à la vie civile dans les années 80, époque où il devient aussi membre du Parti communiste. Il fonde Huawei avec 6 amis et au début, ils vendent un peu de tout, raconte le Straits Times, mais Zheng Zhengfei prend rapidement conscience de la demande en commutateur téléphonique et Huawei se spécialise dans l'importation de ces machines. Les liens entre Zheng Zhengfei et l'armée chinoise lui permettent de décrocher un gros contrat pour la construction d'un réseau national de télécommunications, ce qui lance définitivement l'entreprise, qui devient alors pionnière dans l'implantation de la 3G. Grâce aux prêts accordés par les banques publiques chinoises, Huawei peut se permettre de casser les prix et d'écraser la concurrence. Zheng Zhengfei a une vision militaire des affaires, relate le quotidien. Le marché est un champ de bataille et dans son entreprise, il promeut ce qu'il appelle la culture du loup, une approche agressive des affaires. Ses liens à la fois avec l'armée chinoise et le PC font partie des raisons qui ont poussé plusieurs gouvernements à se méfier de l'implantation de Huawei dans leur pays. Quand l'entreprise a commencé à être accusée d'espionnage, Zheng Zhengfei est sorti de sa réserve habituelle pour déclarer « J'aime mon pays et je soutiens le Parti communiste chinois, mais je ne ferai jamais rien qui puisse nuire à un autre pays ».
Oui, Hamdam, mais il y a évidemment le sort de la fille aînée du fondateur de Huawei qui est toujours en résidence surveillée au Canada.
Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, a été arrêtée au Canada en décembre 2018 à la demande des États-Unis qui l'accusent de fraude et d'avoir contourné les sanctions contre l'Iran. C'est devenu le visage symbole de la guerre commerciale, écrit le South China Morning Post, le quotidien anglophone de Hong Kong, qui rappelle aussi que sa détention a provoqué une crise diplomatique entre le Canada et la Chine. 2 Canadiens ont été arrêtés en Chine juste après l'arrestation de Meng. Meng Wanzhou est donc la fille aînée du fondateur de Huawei et de sa première femme. Elle a d'ailleurs choisi à 16 ans de prendre le nom de sa mère. La femme d'affaires, aujourd'hui âgée de 47 ans, est l'une des femmes les plus riches de Chine. Depuis un an, elle vit en résidence surveillée dans une villa luxueuse de Vancouver, après avoir payé une caution de 10 millions de dollars. Elle se bat contre son extradition vers les États-Unis. Meng Wanzhou avait rejoint en 1993 l'entreprise fondée par son père, d'abord comme secrétaire avant d'obtenir un master en comptabilité et de gravir peu à peu les échelons. Elle est considérée comme l'héritière potentielle de la direction de l'entreprise, même si son père a réfuté ses spéculations. Dans une interview à CNN, à l'occasion de l'anniversaire de la détention de sa fille, son père avait annoncé qu'elle serait immédiatement réinstaurée à son poste si elle parvient à revenir en Chine.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Alain Siby, je rappelle que vous êtes professeur à Télécom Paris. Jusqu'à quel point est-ce que la présence de Huawei en Europe et en France en particulier ne se limite pas en fait à cette espèce d'assaut technologique, mais concerne aussi la manière dont la recherche, les études, recherche et développement sont conduits en Europe et en France en particulier?
Oui, en fait, Huawei participe à de la recherche sur le continent européen au travers, par exemple, des des programmes de coopération en recherche européenne déjà depuis pas mal d'années. Et ils collaborent avec un certain nombre de pays, ils installent des centres de recherche. En France, on a depuis plusieurs années déjà un centre de recherche qui a été installé il y a très, très près d'ici, à Boulogne. Et ils collaborent évidemment, ils ont besoin, ils souhaitent collaborer avec un certain nombre d'acteurs, en particulier les acteurs académiques.
Dont votre propre institut ?
Absolument, absolument. C'est-à-dire que c'est de la recherche, hein, c'est de la recherche académique, qui nous passe des contrats, on a des doctorants en commun pour lesquels on assure la direction académique et il y a un co-encadrement dans ces laboratoires. Et c'est d'ailleurs des doctorants qui sont même soutenus par l'État, par une agence nationale qui est la NRT, comme c'est le cas de beaucoup de doctorants qui sont dans des entreprises en France. Et ils y ont droit et donc la possibilité existe et ils en font profit.
Et donc il n'y a pas d'embarras ou de frilosité ou de crainte, parce qu'on voit à quel point les très nombreux étudiants chinois dans les universités américaines sont aujourd'hui, sinon soupçonnés, en tout cas regardés de près, parce que certaines agences américaines craignent, encore une fois, une confusion des genres. Qu'en est-il en France ?
Je pense qu'il faut distinguer les choses. Ce qui est des préoccupations, des interrogations de fond sur ce que Huawei peut faire dans des équipements qui seront installés partout, c'est une chose. En matière de recherche, il faut bien comprendre que les laboratoires académiques, ils travaillent dans le domaine, dans le cadre de la science ouverte, de plus en plus. Et donc tous les travaux qu'on mène avec Huawei, ou la très grande majorité, font l'objet de publications dans la littérature ouverte qui sont accessibles à tout le monde. Nos doctorants, c'est des doctorants, s'ils veulent avoir leur thèse, ils ont besoin de publier. Et en plus, ce sont quand même des recherches académiques, donc ce sont des travaux un peu fondamentaux, sur des choses un peu algorithmiques éventuellement, des théories de l'information, des choses comme ça. Donc si vous voulez, c'est de là à se retrouver dans un produit, il y a quand même pas mal d'eau qui passe sous les ponts en général. Voilà. Alors après, il se trouve que c'est un acteur qui nous respecte, entre guillemets. D'ailleurs, on a un certain nombre de chercheurs français qui travaillent dans les laboratoires de Huawei. Ce sont des académiques. Il est fort possible qu'ils reviennent d'ailleurs dans des laboratoires français. Donc il y a une forme de synergie, je pense, que moi je perçois comme un respect réciproque et dans la nature de l'activité, et puis par le fait qu'effectivement ils contribuent à la recherche. Donc je pense qu'il faut le voir aussi sous cet angle-là.
Mais pourquoi est-ce que vous expliquez par exemple que l'université d'Oxford, si j'ai bien compris, a décidé de refuser désormais tout financement Huawei, à cause de pression politique, ou même si Boris Johnson n'a pas encore décidé, lui non plus, si oui ou non Huawei allait pouvoir équiper la 5G britannique.
Il peut y avoir aussi des positions individuelles des chercheurs. Les chercheurs, ce sont des esprits libres. Certains ont les mêmes préoccupations éthiques éventuellement que les États. Certains peuvent soupçonner ou considérer que les travaux devraient surtout se faire vraiment dans le cadre européen. C'est aussi des positions personnelles. Donc je ne peux pas dire quel a été le raisonnement suivi par Oxford. Mais disons que, si vous voulez, la chose serait plus simple si en Europe, on avait des poids lourds qui arrivaient à faire face. Et on serait très heureux de travailler avec eux. On le fait d'ailleurs. D'ailleurs, pour être précis, puisqu'on parle de mon institut, il ne travaille bien sûr pas qu'avec Huawei et de là, puisqu'on a beaucoup de partenariats avec des entreprises, y compris américaines. Et alors, on fait la part des choses, par exemple. Mes collègues, quand ils travaillent avec une entreprise comme Cisco, eh bien, il y a vraiment des murailles, en quelque sorte, qui sont établies avec les travaux qui se font avec Huawei. Donc les choses sont, on traite les choses de la façon la plus clean, en quelque sorte, pour éviter tout souci. Voilà.
On voit en tout cas que Huawei mène à l'échelle européenne une offensive tous azimuts. Je crois en 2018, il n'y a pas encore les chiffres 2019, mais en 2018, près de 2 millions d'euros dépensés en lobbying. Au conseil d'administration France, on trouve Jean-Louis Borloo, on trouve Jacques Biot, qui est l'ancien président de l'école polytechnique. Dominique Boulier, qu'en est-il à Sciences Po ? Est-ce que Huawei a offert de financer des chaires ou des activités de recherche ?
Ce n'est pas le cas à ma connaissance. Il est certain que les types de recherche que nous faisons auraient sans doute mis le doigt sur un certain nombre de problèmes liés au type de culture politique chinoise, qui est quand même un peu, qui peut justement poser de légitimes problèmes, donc sans doute qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans cette affaire-là. Mais indépendamment de ça, ça ne veut pas dire pour autant que nous, à Sciences Po, il n'y a pas des chaires qui sont effectivement nouées en partenariat avec les entreprises. Ça, ce n'est pas tellement le problème, si vous voulez. Pour moi, précisément, comme le disait mon collègue, quand on est dans un contexte de sciences ouvertes, ça doit précisément être un cahier des charges très exigeant qui oblige à ce que les résultats soient publics, disponibles pour tous. Si on se souvient, alors le problème c'est comment est-ce que de ces aspects de recherche, on passe aux dimensions opérationnelles de réseau, d'architecture de réseau, etc. Si on se souvient quand même de la puissance d'innovation considérable qu'a développé Internet et le web, le protocole Internet, il a été mis dans les années 80 à disposition du public, par la DARPA en l'occurrence américaine, complètement ouvert. De la même façon que le web, Tim Berners-Lee, effectivement, au CERN, l'a mis, avec René Caillot, ils l'ont mis à disposition aussi. Il est donc ouvert. Vous voyez comment on est passé d'une culture où les infrastructures de base qui organisent une vie collective, qui sont les éléments clés de toute une période technologique maintenant que l'on a, on les a laissées ouvertes. Pourquoi est-ce que sur la 5G, on se retrouve dans une situation où on est obligé de choisir entre le diable apparent du Huawei et puis quand même les autres qui ne sont pas forcément des saints non plus, qui seraient
les opérateurs américains. Il y a en l'occurrence, ou scandinaves en l'occurrence, enfin Nokia, Ericsson a supposé qu'ils soient toujours scandinaves, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs.
Mais donc, quand on est dans ces situations-là, on se retrouve, en réalité, on se rend compte que des architectures qui vont être aussi décisives pour notre vie collective ne peuvent plus être mises dans le domaine public. Ça mérite de poser la question. Qui est après de la concurrence et de la compétition? C'est pas parce qu'il y a eu Internet que ça a empêché la concurrence ou la compétition, au contraire. Mais du point de vue de l'infrastructure, je pense qu'il y a là un vrai problème. Ça devrait être, du point de vue européen d'ailleurs, un des axes de dire, effectivement, on va choisir des opérateurs et des équipementiers en fonction d'un cahier des charges qui obligera, comme on fait à la limite pour la science ouverte. Moi je dis effectivement, je parle là sans doute en faisant du bruit avec ma bouche, parce qu'il est probable qu'il n'y ait pas forcément beaucoup d'écoute de ce type de
message. Mais comment, cette émission est très écoutée donc.
Je suis désolé, je ne voulais pas du tout être offensant sur cet aspect.
Enfin, jamais assez.
Voilà. Mais donc, non, le problème c'est qu'effectivement, on a les institutions européennes ont le pouvoir, puisque c'est un des marchés les plus, comment dire, ouverts d'une part, et puis compétitifs, et très importants et stratégiques, comme on l'a dit, pour Huawei notamment. Eh bien, c'est l'occasion de fixer des cahiers des charges qui fassent que tout ce qui est utilisé doit être disponible, ouvert, contrôlable, auditable, comme on dit, etc. Et c'est valable, on n'est pas obligé de dire que c'est anti-chinois, on peut très bien dire que c'est valable pour l'ensemble des prestataires. Et on peut avoir une haute exigence d'ouverture publique de ce type d'infrastructure, sachant qu'après, les services eux-mêmes qui seront générés au-dessus de ça peuvent être concurrentiels, confidentiels pour des raisons diverses de secrets industriels, etc. Mais là, on construit une architecture commune, et on n'est plus capable de mettre en place la philosophie qu'on a connue au temps d'Internet. Eh bien, on va en payer le prix, parce qu'au bout du compte, nous aurons effectivement cette balkanisation d'un côté, qu'on a évoqué, qu'évoquait Alice aussi, carrément, et du point de vue des Européens, un tiraillement entre des influences, sans être capable d'imposer des principes et des valeurs qui sont celles du continent européen, j'allais dire, en termes de respect de la privacy, de respect des libertés, d'un certain nombre de capacité à réguler une politique publique. Et là, ça, c'est quand même dommage. C'est une occasion ratée de ce point de vue-là si on ne prend pas ce type de décision.
Il est assez cocasse ou ironique, en tout cas, quand on lit l'argumentaire de Huawei ou les interviews accordées par, en particulier, le dirigeant pour l'Europe, c'est qu'il met en valeur cette communauté de valeurs. À les différences, laisse-t-il entendre entre les mots des valeurs de Donald Trump? Enfin, il y a une espèce de double discours qui est assez ironique, Alice Ekman, surtout quand on sait que la loi chinoise, je crois que c'est même l'article 7, impose aux sociétés chinoises de communiquer ou de collaborer de façon pleine et entière avec les services de renseignement chinois quand le pouvoir le leur demande.
Depuis 2013, le lien entre le parti et les entreprises s'est renforcé. Alors, indépendamment du cas concret d'entreprise, ça c'est une vérité générale qu'on constate globalement sur le marché chinois. Les cellules du parti dans l'entreprise, leur poids est plus fort dans l'entreprise d'État, mais elles existent aussi, ces cellules, dans les entreprises privées. Et de manière générale, on reste dans une économie planifiée, avec l'équivalent du plan, la NDRC, la National Development and Reform Commission, avec des plans quinquennaux, des plans aussi sectoriels, avec une architecture particulière, et aussi avec, et ça fait écho avec ce qu'on qu'on vient de dire à l'instant, avec aussi un marché qui reste relativement peu ouvert dans les secteurs considérés stratégiques par Pékin, peu ouvert aux investisseurs étrangers. Souvent, on a reproché une certaine naïveté aux Européens en disant « vous ouvrez le marché aux investisseurs étrangers dans les secteurs stratégiques », mais à l'inverse, leur marché n'est pas ouvert à vos investisseurs. Et donc, c'est face à ça aussi, c'est face à cette asymétrie en termes d'ouverture au marché que la balkanisation qu'on évoquait finalement a émergé et s'est développée. C'est-à-dire que, certes, dans un monde idéal, on aimerait que tout soit ouvert et voilà, et que chacun puisse investir dans tous les secteurs sur un pied d'égalité. Mais la diversité des systèmes économiques fait que c'est, dès le départ, très, très difficile à mettre en place.
Et dans d'autant que les mastodontes américains ne sont pas non plus. Purs et innocent.
Non plus. Donc, finalement, il faut aussi rattacher cette guerre technologique avec la guerre commerciale, puisque l'approche de Donald Trump était de dire, pendant longtemps, nous avons essayé le dialogue avec les Chinois pour essayer d'acheminer progressivement leur économie vers une ouverture plus grande, donc libéraliser progressivement l'économie. Ça n'a pas marché. Le marché, justement, chinois n'est pas plus ouvert qu'auparavant. Au contraire, il se referme dans certains secteurs. Donc, c'est maintenant le moment de poser des sanctions, la méthode dure. Alors l'Europe est d'accord avec l'analyse de Washington sur la difficulté d'accès au marché chinois, mais n'est pas d'accord sur la méthode. Elle considère que les sanctions commerciales sont jusqu'à présent, ce n'est pas la voie qu'elle souhaite suivre. Mais globalement, il y a cette question de comment interagir avec des économies qui sont structurées différemment, où le rôle de l'État est plus fort, où le rôle du Parti communiste chinois est central, et aussi où il y a une volonté de s'affranchir de cette interdépendance technologique qui existe depuis quelques années. Donc voilà, on est dans cette de figure là. De mon point de vue, on nous orientons quand même vers la formation de pôles, parce que certes, si à terme, on voit la question de la 5G se développe différemment avec le cas Huawei, mais d'autres pays restent intéressés. Enfin, c'est-à-dire, l'état du débat est celui que l'on partage aujourd'hui autour de cette table, est très différent en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, et la question
qui profite aussi.
Oui, il ne faut pas oublier que Huawei est très présent dans certains pays africains, les technologies de base. Là, je ne parle même pas de la 5G, je parle de la 4G ou des téléphonies, des réseaux plus anciens sont développés. Et comme il y a la question, comme d'ailleurs dans les industries de défense ou l'industrie duale, de l'interopérabilité ou de la compatibilité, le premier entrant parfois a un avantage pour développer les services complémentaires ou les nouvelles générations.
Et oui, d'autant que d'après ce que j'ai compris, on ne peut pas passer d'un opérateur à l'autre quand on change de génération. Autrement dit, sur un socle 4G, Ericsson ou Nokia, on ne peut pas mettre une strate ou une couche chinoise.
Oui, les techniciens autour de la table répondront à cette question mieux que moi, mais ce qui est sûr, certain aujourd'hui, c'est que le développement de la 5G se fait aussi beaucoup en mode urbain, dans l'environnement urbain, et dans cet environnement-là, la question de l'interopérabilité, c'est-à-dire les capteurs, le traitement des données qui sont collectées par ces capteurs, et aussi la connexion avec les autorités de la sécurité publique, parce que c'est le cas en Chine, ce modèle-là est promu en Chine sur le marché chinois, mais aussi à l'étranger, notamment dans certains pays africains, dans certains pays du Moyen-Orient ou d'Asie Sud-Est, en disant nous sommes capables de vous offrir un outil clé en main, compatible, interopérable et de nouvelle génération.
Et politiquement sûr.
Parce que surtout c'est politiquement aussi un attrait qui vous aidera à surveiller aussi finement que nous, vos populations. Et donc la Chine aujourd'hui promeut un modèle de gouvernance urbain très particulier, notamment à travers des programmes de formation à destination de certaines villes de pays en développement, en disant voilà ce que nous faisons sur notre territoire, nous vous encourageons à faire de même et nous mettons à votre disposition des ingénieurs, des techniciens, des formateurs pour vous développer, les aider à développer ces technologies.
Julien Nocetti, on se rend compte, même si ça n'a pas été le cas dans la bouche d'Alice, mais qu'on glisse vers un vocabulaire qui rappelle celui de la guerre froide, avec, surtout de la part des autorités américaines, des mises en garde et des pressions ouvertes, massives, vis-à-vis des alliés, mais des pressions qui, pour le moment, en tout cas, n'ont pas vraiment abouti. Madame Merkel est tout aussi embarrassée en Allemagne que Boris Johnson en Grande-Bretagne. En France aussi, on se rend bien compte que sur la 5G, encore une fois, la liste des équipementiers qui seront autorisés, eh bien, il y a un certain flou.
aux grandes dames d'ailleurs des opérateurs télécoms. Donc, comment expliquez-vous cet embarras européen par rapport aux pressions américaines?
Alors, je pense qu'en fait, pour les Européens, l'enjeu, il est double et il dépasse peut-être le seul cadre de la 5G. C'est-à-dire que d'une part, c'est un problème de relation à la Chine, plus large que les seuls enjeux technologiques. Donc, de définir à la fois à Paris, à Berlin, à Londres, etc., quel type de relation on souhaite à la Chine. Et c'est vrai que là, il y a quand même un effort politique qui est extrêmement important à faire, à entreprendre vis-à-vis de Pékin. Et qui n'a pas encore été opéré. Et deuxième enjeu qui est imbriqué, c'est un contexte transatlantique qui est parfois très rude, avec une administration de Trump qui prend des décisions parfois un peu à la volée et qui contreviennent là aussi parfois directement aux intérêts européens. Donc c'est un effet ciseau, si vous voulez, dans lequel est pris l'Europe. Et en matière technologique, c'est évidemment très délicat d'agir rapidement, de façon concertée, coordonnée, surtout que toutes ces thématiques numériques et technologiques en Europe n'ont jamais fait l'objet de consensus. Donc il y a, vous avez rappelé les pressions que les Américains font de plus en plus sur les Européens. C'est vrai qu'avec l'affaire Huawei, ce qui a été très notable, ça a été un chantage au partage de renseignements de la part de Washington vis-à-vis de ses alliés les plus importants, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc ça, c'est quelque chose d'assez inédit depuis la guerre froide, parce qu'on n'avait jamais vu un tel niveau de pression sur un sujet aussi sensible, partage de renseignements, dans un contexte sécuritaire aussi très très dégradé. Et vous avez également souligné cette délicatesse dans les principales capitales européennes pour adopter un positionnement clair et tranché, je dirais, vis-à-vis de ces équipes anti-chinois et Huawei en particulier. C'est vrai que l'approche de Berlin peut trancher avec celle de Paris, par exemple. À Berlin, il y a eu jusqu'à présent un atermoiement au plus haut niveau de la chancellerie, avec une lecture peut-être plus focalisée sur la technique, c'est-à-dire de mettre entre les mains d'agences techniques, de régulation technique, le pouvoir de décision en matière d'autorisation ou pas de Huawei au marché futur de la 5G.
C'est la tentation française aussi, manifestement.
La tentation française d'agir plus ou moins de la même manière, mais peut-être moins public. Il y a beaucoup moins de débats publics en France sur ce sujet qu'en Allemagne. C'est peut-être un euphémisme que de le rappeler.
Et c'est bien dommage.
Et c'est bien dommage, évidemment, sur de tels sujets stratégiques, et aussi un attentisme de Paris qui passe souvent par la voie de Matignon, avec le rôle de l'ANSSI en particulier, mais une grande prudence à parler directement sur un sujet qui concerne la Chine, encore une fois, avec des enjeux là aussi stratégiques et commerciaux en arrière-plan. Donc c'est une grande hésitation générale, je pense, au sein des pays européens, qui est là aussi peut-être en décalage direct avec l'approche bruxelloise, où on sent peut-être émerger, et justement à raison, une plus grande velléité, voilà, d'affirmation par la voix du commissaire Thierry Breton ou la vice-présidente de la commission Margrethe Vestager en matière numérique, qui ont là aussi un poids politique assez important et qui auraient les moyens de s'affirmer dans le discours au moins face à la Chine.
Précisément, Dominique Boulier, comment passer au niveau européen des velléités à une ambition véritable? Parce que la 5G peut être précisément cette opportunité, puisque les grands pays européens ont le même embarras. Est-ce que oui ou non, on accepte que Huawei domine complètement ce nouveau cycle technologique que va représenter la 5G? On sait que M. Orban en Hongrie trouve ça épatant et que déjà Huawei est en Hongrie. Mais Thierry Breton, qui est donc le commissaire français à la tête de plusieurs départements, et qui connaît fort bien ce secteur, étant donné ses fonctions antérieures, est-ce qu'il y a là, et on pensait lire cela dans les quelques entretiens qu'il a donnés déjà à la presse internationale, est-ce qu'il y a là pour l'Europe, au niveau de l'Union européenne, une chance de passer véritablement à une approche commune?
Je pense vraiment que oui, qu'il y a une échéance qui est intéressante, qui est cruciale de ce point de vue-là. On a l'expérience de, comment dire, d'un renouveau de l'ambition stratégique européenne à travers le RGPD, à travers le règlement sur la gestion, sur la protection des données.
Avec des amendes fortes infligées
voilà,
par la
Madagascar. On ne croyait pas réellement que l'Europe pouvait exister face à la puissance de frappe de l'ensemble des grandes plateformes, etc. Finalement, ça s'est mis en place. Ça s'est mis en place comment aussi? Grâce aux différentes agences, en l'occurrence les CNIL, l'équivalent des CNIL en Europe, qui se sont coordonnées, qui ont fait un travail long et sérieux, et qui finalement ont réussi aussi à convaincre l'Union européenne de passer à l'acte dans ce domaine-là. Et de ce point de vue-là, c'est quand même un exemple sur lequel on peut s'appuyer. C'est-à-dire qu'on peut petit à petit développer et maintenir le modèle européen, justement de ses valeurs, qui sont, contrairement à ce qu'on dit, effectivement, quand même bien spécifiques, notamment en matière de régulation et en matière de droits des individus. Donc de ce point de vue-là, c'est très important qu'on saisisse cette occasion-là. Alors sur la question, quand on passe à des questions comme la 5G, ça veut dire tout de suite qu'on ne se précipite pas, contrairement à ce que l'on fait actuellement, c'est-à-dire de se dire, c'est moi ce que j'appelle cette expression que j'utilise depuis pas mal d'années, en disant que toutes nos décisions sont prises sous l'empire de la tyrannie du retard, c'est-à-dire qu'on est... Il faut prendre une décision tout de suite. Alors, dans cette logique-là, vous savez que sur le plan cognitif, ça restreint complètement votre horizon. C'est-à-dire que vous suivez ce que les autres ont déjà à disposition et vous dites qu'il faut faire comme eux. Mais y compris du point de vue strictement concurrentiel, on sait bien qu'il vaut mieux essayer de faire autrement. Peut-être parce qu'à court terme, vous avez l'impression de gagner en faisant comme eux, mais à long terme, vous ne le ferez pas. Ce qui est le cas du RGPD. Le RGPD, on se dit ça complexifie les choses, ça va tuer le business, etc. Qu'est-ce qui se passe? Les États américains sont en train d'emprunter le modèle du RGPD pour dire oui, ça va beaucoup nous aider.
Rappelez-nous, le RGPD?
Le Règlement Général de Protection des Données.
D'accord.
Et donc, à partir de ce moment-là, on va être capable d'inspirer plutôt d'autres entités au niveau des gouvernements dans le monde entier, et même y compris au niveau des États-Unis. Donc, on peut très bien faire quelque chose d'équivalent là, en disant nous allons poser un cahier des charges qui, sur le plan de la sécurité des réseaux d'une part, sur le plan de la consommation énergétique, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable, je veux dire, ce que l'on va consommer. Est-ce que réellement on n'est pas capable d'imposer un certain nombre de conditions d'utilisation qui vont peut-être limiter certaines capacités, mais enfin, je veux dire, on ne peut pas continuer à faire comme si on pouvait dépenser encore et encore de l'énergie pour des services qui sont pour beaucoup d'entre eux hypothétiques, ça veut pas dire pour ça qu'ils seront pas utiles, mais en attendant, on peut le faire avec moins d'énergie, on peut faire des choses sobres. Donc ça, il faut le mettre dans le cahier des charges, et de la même façon, sur les questions de santé, puisque les antennes sont un problème qui n'est pas soulevé vraiment chez nous, mais qui est soulevé, par exemple, actuellement, mais qui en Suisse ou en Belgique est désormais soulevé. Tout cela, ça fait partie des valeurs et d'un cadre de cahier des charges qui mériterait un appui stratégique.
Eh bien, voilà un chantier tout à fait crucial et passionnant. Merci à tous. Merci à vous, Dominique Boulier. Vous avez publié Sociologie du numérique et la seconde édition est parue en septembre dernier chez Armand Collin. Merci à Alice Ekman. Vous allez publier très bientôt aux éditions de l'Observatoire Rouge Vif, l'idéal communiste chinois. Merci à Alain Sibi, professeur à Télécom Paris. Et merci bien sûr à Julien Nocetti qui était avec nous par téléphone et qui a... Julien, vous avez publié un papier très intéressant, Intelligence artificielle et politique internationale, dans la revue de l'IFRI en novembre dernier. Merci bien sûr à Hamdam Mostafavi, à Luc-Jean Reynaud à la réalisation ce matin, Ali Yaya à la technique, Hugo Boursier a préparé cette émission comme chaque semaine, et vous avez rendez-vous maintenant comme chaque samedi avec Hervé Gardette. Merci beaucoup, très bon week-end, à samedi prochain.